des femmes,
des hommes,
des droits.
Une chronique de la Ligue des droits de l'homme de l'Ain. Bonjour amis auditeurs et bienvenue pour cette nouvelle chronique. Aujourd'hui, je reçois Sophie Dupuis-Fontaine qui est directrice de l'AVEMA de l'Ain. C'est bien cela. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Et peut-être qu'on va commencer par définir cet acronyme.
Alors, AVEMA, ça veut dire Association Aide aux Victimes et Médiation dans l'Ain.
Donc vous vous occupez des victimes. Qu'est-ce qu'une victime, Sophie Dupuis-Fontaine ?
Alors une victime, il y a de nombreuses définitions, mais nous on a notre propre définition qui se rattache au code pénal. Pour nous, à l'AVEMA, en tout cas les personnes que nous accompagnons, ce sont des personnes qui sont touchées de près ou de loin par une infraction pénale au sens du code pénal.
Alors, je suis venu ce matin à l'AVEMA avant l'émission et j'ai franchi votre porte facilement. Alors, pour la franchir, est-ce qu'il y a besoin auparavant d'une plainte, d'un dépôt de plainte en ce qui concerne une victime? Comment ça se passe?
Alors, pas du tout. Nous, notre porte est grande ouverte. Même s'il y a des personnes qui viennent et ce n'est pas notre activité, on peut les réorienter. Voilà, on est dans une société où il n'y a pas beaucoup de portes ouvertes, donc la nôtre est ouverte, que ce soit physiquement, que ce soit par téléphone, que ce soit par mail. Et le dépôt de plainte n'est évidemment pas obligatoire puisqu'on accompagne des personnes qui se questionnent sur est-ce que je vais déposer plainte et est-ce que ce que j'ai subi est constitutif d'une infraction.
Et donc, quand une victime vient vous voir, à quoi peut-elle s'attendre?
Alors, on en avait échangé en amont, mais la victime, on va dire qu'il y a une certaine forme de chronologie. On va caler ça avec l'audience. Si toutefois il y a audience, il y a avant audience, pendant audience et après audience, où l'AVEMA peut être présente tout le long.
Donc, c'est-à-dire qu'il y a des structures à tous les niveaux donc, qui interviennent à l'AVEMA.
Exactement. Ouais. On a des collègues qui interviennent à tous ces différents niveaux, en sachant que l'audience n'est pas non plus une fin en soi, puisqu'il y a des personnes qui ne souhaitent pas déposer plainte. Et si on n'est pas avec des personnes qui sont vulnérables, des mineurs, la personne est tout à fait en droit de ne pas aller jusqu'au bout de la procédure. C'est son choix.
Donc avant, pendant, après?
Alors avant, c'est la victime qui vient nous voir et qui se questionne est-ce que j'ai vraiment été victime d'une infraction pénale? Est-ce que ça relève d'un dépôt de plainte où je dois me présenter en gendarmerie ou au commissariat? Ou je n'ai pas la force et je ne pourrai jamais aller déposer plainte? Est-ce que vous pouvez m'accompagner? On est vraiment dans cette idée.
Là, vous dites accompagner, c'est-à-dire que c'est peut-être quelque chose qui, ces personnes face à la machine judiciaire, sont peut-être pas en mesure directement, donc... d'avoir affaire à cette machine judiciaire, elles viennent vous voir?
Alors la justice, c'est pas toujours évident. Enfin, c'est un monde à part qui essaye de s'ouvrir et se démocratiser un petit peu. Aller déposer plainte en gendarmerie ou au commissariat, c'est pas évident non plus, même si les professionnels ont des formations sur ces points-là. Donc du coup, l'idée, c'est vraiment de l'accompagner, mais au sens propre du terme, si c'est nécessaire.
Alors, accompagner comment?
Alors, l'accompagnement, il peut se faire d'un point de vue juridique, d'un point de vue social, d'un point de vue psychologique. Tout dépend où en est la personne, si elle a vraiment ce besoin d'accompagnement plus, je dirais, ou alors juste un coup de pouce, un soutien. Ça, c'est avant ce fameux dépôt de plainte, si dépôt de plainte il y a.
Donc, la personne, donc, vous dites bien la personne avant de dire la victime?
Oui, parce que parfois, il y a des personnes qui se présentent et qui ne sont peut-être pas forcément victimes au sens où nous, on l'entend. Donc, il y a besoin de clarifier tout ça et d'être au clair avec cette personne et de ne pas être malhonnête, en tout cas dans la définition des termes, dans l'accompagnement. On ne peut pas accompagner toute personne qui se dit victime dans le sens très large du terme. Nous, il faut que ça remplisse des conditions vraiment au sens pénal du terme.
Donc, accompagnement psychologique, accompagnement juridique?
Exactement. Accompagnement psychologique, aller déposer plainte, c'est pas simple. Ça veut dire que derrière, potentiellement, un procès peut s'ouvrir. On n'est pas tous aguerris à ces procédures-là. Et puis, il y a quelque chose qui relève du traumatisme. Il y a besoin d'un psychologue spécialisé dans cette question-là pour expliquer ce qui va se jouer sur ces moments-là.
Donc l'AVEMA, c'est quand même une grande galaxie. Je suis allé dans le bureau ce matin, donc il y a des psychologues qui sont... pour les personnes adultes, également pour les enfants?
On reçoit toute personne victime, homme, femme, enfant, il n'y a pas de distinction. Le principe, c'est d'avoir été victime d'une infraction, dans le cadre d'une infraction pénale. Donc nos psychologues, effectivement, accompagnent, parfois même à appréhender ce procès qui va arriver et à ce qui va se jouer sur ce temps-là qui est extrêmement dur.
Donc, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont... Donc, il y a accompagnement juridique également. Ça se passe en équipe, comment ça se passe?
Alors, il y a des relais. Avant audience, s'il y a un point qui est fait juridique avec notre juriste, elle va peut-être orienter la personne vers notre psychologue pour lui dire « ça me semble compliqué pour cette personne, il y a besoin de préparer quelque chose ». Peut-être qu'il y aura un lien aussi au niveau social parce que cette personne aura des difficultés de logement, de positionnement. Donc l'idée, c'est vraiment du sur-mesure et adapté à une personne qui, il y en a d'autres, vont juste venir avoir besoin de qu'est-ce qu'une procédure pénale? On répond à la question et c'en est terminé.
Et alors donc, ces personnes se retrouvent au tribunal, c'est le pendant, on a vu l'avant et le pendant. Et comment ça se passe avec les autres personnes en charge de la procédure judiciaire? Je pense aux avocats, par exemple.
Alors, il y a un fonctionnement très fluide, c'est-à-dire qu'on a une collègue juriste qui est présente non-stop à ce qu'on appelle le bureau d'aide aux victimes, donc non-stop au tribunal. Et elle travaille en bonne intelligence, je dirais, avec l'ensemble des avocats, avec les magistrats, avec les greffiers. L'idée, c'est que le procès se passe le mieux possible et que chacun puisse accomplir sa fonction.
Et donc, il y a une entente qui est nécessaire entre les...
Oui. Il n'y a pas du tout de concurrence. Il y a, quand on est, par exemple, sur des audiences spécifiques sur les violences intrafamiliales, la présidente d'audience va signifier la présence de la VEMA. Les avocats, eux, remplissent leur fonction qui est de défendre et d'amener une plaidoirie pour leurs clients sur ce moment-là. Et moi, ma collègue sera plutôt dans l'accompagnement de la personne sur l'aspect physique, sur l'aspect parfois besoin très primaire. Un verre d'eau, sortir de la salle d'audience parce que c'est trop compliqué.
Oui, donc parce que les personnes sont face à des situations complexes.
Quand vous avez votre... il ne vous appartient pas, mais l'auteur de l'infraction dont vous avez été victime qui est en face de vous, qui vous regarde parce qu'il est là en train d'être jugé, c'est un moment qui est extrêmement, extrêmement difficile.
Alors je suppose qu'il y a certains pourcentages de victimes. Quelles sont les victimes qui sont le plus recensées chez vous?
Alors nous, on a à peu près sur les infractions, 70% des personnes qui viennent pour ce qu'on appelle des atteintes aux biens. Des atteintes aux personnes, pardon, excusez-moi. Aux personnes, ça veut dire atteinte physique, violence physique, agression sexuelle, viol. C'est vraiment une atteinte sur la personne.
Donc sur l'intégrité de la personne.
Exactement. En tout cas, le corps a été touché.
Donc ces personnes, vous aidez, donc vous les accompagnez au tribunal. Donc ça, c'est pendant. Et est-ce qu'il y a un après, donc?
On sort pas indemne d'une audience, c'est toujours compliqué. Lors du procès, on vient mettre en avant ce qui s'est passé. Les magistrats donnent des détails, des faits, ce qui est normal pour que la justice soit rendue correctement. Mais c'est difficile. C'est difficile pour les victimes parce que parfois, elles sont même souvent attachées à l'auteur qui va être condamné. Donc il y a souvent des doubles sentiments, un sentiment de soulagement, puis parfois un sentiment de culpabilité. Les deux ne sont pas incompatibles. Il faut travailler ça avec les victimes.
Il faut travailler ça après, donc comment ça se passe après?
Alors après, on a nos psychologues qui peuvent reprendre des temps individuels, on a la juriste qui peut aussi réexpliquer ce qui a été dit d'un point de vue purement judiciaire, et puis on a des temps de prise en charge sur des groupes de parole, sur des groupes comptes pour les enfants, sur de la socio-esthétique en individuel, sur de l'art-thérapie.
Vous m'avez dit hors antenne que vous n'aviez pas une approche manichéenne de la justice et vous occupez des victimes, mais également donc des auteurs.
C'est ça, comme toute chose, il y a besoin d'un pendant. Accompagner les auteurs, c'est aussi protéger les victimes. Donc on a tout un service qui s'appelle accompagnement socio-judiciaire de l'Ain, où on accompagne les auteurs par différentes mesures.
Comment ça se passe en fait avec les auteurs?
Alors pour les auteurs, on va dire que la plupart du temps, c'est le tribunal qui nous saisit. Soit pour mettre en place des contrôles judiciaires, soit pour des enquêtes sociales rapides, des enquêtes de personnalité. Et puis sur certains auteurs spécifiques, donc les auteurs de violences conjugales, on nous demande d'avoir un accompagnement plus ciblé, plus spécifique, en mettant en place un temps avec des psychologues, des travailleurs sociaux.
Alors ces violences conjugales, elles ont lieu, donc est-ce que le milieu est important et déterminant pour les violences conjugales ou est-ce qu'on est en dehors de cela?
Le milieu social, vous voulez dire?
Le milieu social.
Malheureusement, les violences conjugales touchent tous les milieux sociaux professionnels. On n'est pas dans des clichés de personnes et de publics particuliers. Après, c'est sûr qu'un enfant qui a vécu lui-même des violences conjugales aura une approche toute particulière pour construire lui-même sa vie de couple. Donc on est très sensible, nous, à la présence des enfants dans le cadre des violences conjugales.
Est-ce que vous trouvez qu'on met assez l'accent sur les violences faites aux enfants dans notre société?
Aujourd'hui, non. Ça va être un petit peu, c'est un peu notre cheval de bataille depuis quelques années. On aimerait que tout ce qui se passe pour les violences conjugales aujourd'hui sur des audiences spécifiques puisse se reproduire pour les mineurs victimes d'agressions sexuelles.
Comment peut-on mettre en place donc, des systèmes qui permettent justement donc, de faire sortir ces affaires-là ?
Il faudrait une vigilance accrue, de la formation pour tous les professionnels qui sont en lien avec ces enfants, et puis un accompagnement spécifique. Et vraiment sur la partie justice, une audience spécifique. On ne traite pas des agressions sexuelles de mineurs de la même manière que d'autres procédures pénales.
Une audience spécifique, on ne traite pas de la même manière, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'un mineur qui a été victime d'agressions sexuelles, souvent en intrafamiliale ou avec... une personne ayant autorité nécessiterait, comme on le fait pour les violences conjugales, une prise en charge vraiment spécifique, que ce soit du magistrat, que ce soit de l'accompagnement, nous, au niveau de l'AVEMA. On est très souvent désigné administrateur ad hoc pour ces enfants, mais c'est important de réimpulser.
De réimpulser.
Oui.
Et donc, ces enfants, en tous les cas, peuvent avoir été enfants il y a longtemps. Et les histoires ressortent beaucoup plus tard. Des affaires d'inceste, la prescription est arrivée là, comment faire ?
Alors, on avait des prescriptions qui étaient 20 ans sur les viols à partir du moment où l'enfant avait été victime de viol en étant mineur. Il y avait 20 ans après la majorité. Et puis, il y a cette prescription glissante qui est venue se mettre en place et qui permet en tout cas d'aller au-delà de cette prescription des 20 ans.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'une personne qui a été victime d'agressions sexuelles et de viols pendant sa minorité, si les choses lui reviennent à l'esprit, parce qu'on n'a pas toujours la capacité que ça remonte au moment où, quand elle a 50 ou 60 ans, s'il y a eu d'autres dépôts de plainte contre l'auteur des faits entre-temps, elle sera partie à l'audience aussi et une enquête sera menée, même si les faits sont prescrits.
Donc rien n'est perdu pour cette personne, c'est la nouveauté actuellement.
C'est ça, et puis c'est surtout un accompagnement. Pouvoir dire à cette personne qu'on la croit, qu'on l'accompagne, qu'on la suit, et que l'individu qui a commis ces horreurs puisse être aussi condamné, c'est important.
Alors, là, je suis bien compris dans tout ce que vous me racontez, c'est qu'on a affaire à la complexité humaine. On parle d'un coût victime quand vous négociez vos subventions, parce que vous êtes une association, je crois que ça vous interpelle.
Oui, on a le ministère de la Justice qui, lorsqu'on doit rendre des chiffres de notre activité, et qui nous demande ce qu'on appelle un coût victime. Donc on ne peut pas vous dire que ça ne nous fait pas bondir de notre chaise, puisque toute victime n'est pas accompagnée de la même manière, qu'on ne peut pas uniformiser chaque personne, parce que là où une personne aura besoin de moins de temps parce qu'elle arrivera plus facilement à rebondir, une autre nécessitera plusieurs mois ou plusieurs années. Donc on ne peut pas lisser les choses de manière très... comme un robot, ce n'est pas possible.
Les personnes ne sont pas des dossiers.
C'est ça, l'être humain est ainsi fait et on a chaque particularité et on devrait pouvoir accompagner les personnes en faisant du sur-mesure.
Pour en terminer, c'est vrai qu'on est toujours dans la complexité humaine. Est-ce que des fois les médias, la façon dont ils s'emparent des affaires, est-ce que ça ne peut pas faire du tort par rapport justement à la complexité des affaires dont vous vous occupez ?
Si, parce qu'on nous présente des affaires... judiciaire de manière très simple, alors que il y a des magistrats qui travaillent pendant et des enquêteurs pendant des semaines et des semaines, des mois et des mois, et on peut pas porter un jugement juste en lisant un article de presse qui résume une situation, alors qu'il y a des tonnes et des tonnes de papiers et d'enquêtes qui ont été faites. Et c'est ce qu'on déplore un petit peu, ce côté comme si c'était très simple, alors que c'est pas simple du tout.
Ouais, un peu de lenteur dans notre société de l'immédiateté.
Oui, ça ferait pas de mal. Un auteur disait que le doute était bon parfois. Je pense que le doute est bon et on n'est pas obligé de se prononcer rapidement sur toute situation. On peut réfléchir un peu avant.
L'émission se termine. Peut-être avez-vous un souhait pour l'avenir que vous aimeriez, nous faire part ?
Alors mon souhait là, à cet instant, c'est effectivement ce travail sur les mineurs victimes d'agressions sexuelles, qu'on puisse vraiment... impulser, s'emparer du sujet et qu'on n'ait plus d'enfants victimes qui ne soient pas pris en charge immédiatement et qu'on les laisse pendant des années et des années aux mains de leurs bourreaux sans que rien ne soit fait.
C'est la priorité actuelle.
Exactement.
Sophie Dupuis-Fontaine, merci beaucoup pour ces éclaircissements. Amis auditeurs, je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.